France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, gloire à Jacques Offenbach avec son descendant Jacques Bourdon qui veille toujours sur le théâtre familial des Bouffes Parisiens. Jacques Bourdon est mon invité en compagnie du metteur en scène Yves Coudray et de la chanteuse Edwige Bourdy qu'on retrouve à partir de mardi au théâtre de Poche Montparnasse dans un ravissant spectacle intitulé Les Jeux de l'amour et d'Offenbach. En fin d'émission, la chronique de Serge Elaïc sur Arthur Fiedler et le Boston Pops Orchestra. Juste le temps d'un voyage éclair au Brésil, toujours dans l'actualité de Jeux Olympiques en Jeux Paralympique.
Cai, 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 eu não vou te levantar. Cai, 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 quem manda escorregar, oi.
Cai, 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 eu não vou te levantar. Cai, 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 quem mandou escorregar?
E cai a chuva no telhado, teu olhar caiu no meu. Cai a cinza do passado, sobre um sonho que morreu. Cai a chuva no telhado, teu olhar caiu no meu. Cai a cinza do passado, sobre um sonho que morreu. E cai, 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 eu não vou te levantar. Cai, 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 quem mandou escorregar?
Cai, 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 eu não vou te levantar. Cai, 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 quem mandou escorregar?
E muita gente cai à toa, e outros caem com razão. A saudade é uma garoa caindo no coração. E muita gente cai à toa, e outros caem com razão. A saudade é uma garoa caindo no coração. E cai, 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 eu não vou te levantar. Cai, 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 quem manda escorregar?
Cai, 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 eu não vou te levantar. Cai, 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 quem mandou escorregar?
E cai alguém por simpatia, por amor cai outro alguém. Se Deus quisesse eu caía, de amores por meu bem. Cai alguém por simpatia, por amor cai outro alguém. Se Deus quisesse eu caía, de amores por meu bem. E cai, 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 eu não vou te levantar. Cai, 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 quem manda escorregar? Oi!
Cai, 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 eu não vou te levantar. Cai, 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 quem mandou escorregar?
Et pour l'occasion, j'ai ressorti tous mes disques de Carmen Miranda ici dans Kai Kai, enregistré en 1941. C'est pas impossible d'ailleurs que dans quelques instants, avec mes invités, on reparle du Brésil et des Brésiliens dans cette émission spéciale Offenbach qui a fait chanter le plus célèbre des Brésiliens dans sa vie parisienne.
Thank you.
Ça, c'était un petit clin d'œil franco-brésilien avec les Saudades do Brasil de Darius Milhaud, ici dans une version orchestrale dirigée par le compositeur.
Benoît Dutertre. Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Et je vous l'ai dit, nous avons donc rendez-vous ce matin avec Jacques Offenbach à travers évidemment mes invités. D'abord Jacques Bourdon qui est le descendant en ligne directe du grand compositeur, mais aussi Yves Coudray et Edwige Bourdi qui présentent un ravissant spectacle Offenbach au théâtre de Poche-Montparnasse. Ce sera pendant 2 mois à partir de mardi prochain. Alors avec eux, enfonçons-nous maintenant dans les coulisses du théâtre et de la vie parisienne.
Sauter l'argent, gagné par leur père, et rogne la dot promise à leur sang. Minuit sonne, écoutez, corroyez et profitez. À minuit sonnant, commence la fête, main coupée s'arrête. Sortir de jolis messieurs, des femmes charmantes qui viennent pimpantes pour se divertir. La fleur du panier, des brunes, des blondes et bien entendu des rousses aussi. Les jolis messieurs sont de tous les mondes, c'est un peu mêlé tout ce qu'on trouve ici. Oui, tout cela s'anime et se met en joie, froufrou de la soie le long des couloirs. C'est l'adagio de la bacchanale et dont la voix brutale gronde tous les soirs. Rires éclatants, fracas du champagne, on carrette en récit, on danse l'amour. Et le piano qui grince accompagne sur des airs connus d'étranges ébats. Le bruit monte, monte et devient tempête. La jeunesse en fête chante à plein gosier. C'est du plaisir ou de la furie. On parle et on rire, tant on peut prier. Quand on n'en peut plus, il faut bien se taire. La gaieté s'en va. Petit à petit, l'un dort tout debout, l'autre dort par terre, et voilà comment la fête finit. Quand vient le matin, quand paraît l'aurore, encore, mais plus de gaieté. Les joyeux viveurs sont mal à leur aise, et dans le grand 16, on voudrait du thé. Ils s'en vont enfin, la mine blafarde, ivre de champagne et de faux amours, et le balayeur s'arrête et regarde, et leur cri.
Suzy Delaire dans La Vie Parisienne. Bonjour Jacques Bourdon.
Bonjour cher ami.
Vous m'avez dit que c'était votre interprète favorite pour la musique d'Offenbach.
Je ne l'ai pas vu souvent ni entendu souvent, sauf sur des disques et une fois au Théâtre de Paris. Où elle
dans la fameuse version de La Vie Parisienne de Jean-Louis Barrault.
Absolument. Et j'ai été enchanté. Puis j'ai eu l'occasion de la voir pour d'autres choses, des amis au théâtre. Elle m'a enchanté. Et j'ai trouvé qu'en plus, c'était une comédienne extraordinaire.
C'est peut-être pour ça que c'est une grande interprète d'Offenbach, d'ailleurs.
Absolument. Offenbach a besoin, avant toute chose, d'une comédienne et d'une belle voix.
Bien sûr.
Il n'a pas besoin d'une voix d'une puissance extravagante, comme, pas du tout. Mais la comédie, et puis il faut qu'elle soit jolie. Je vais vous dire, c'est peut-être une déformation qui me vient de Jacques, du grand Jacques.
Oui, parce qu'il aimait bien les femmes et les belles femmes. Hein.
On dit beaucoup de choses, mais dans ma famille, c'était un très bon père et un très bon mari. On n'en est jamais sorti de ça. Et moi aussi, j'aime les jolies femmes, mais j'étais très honnête dans ma vie. Et je trouve que c'est important que quand on voit un spectacle, qu'on tombe sur une jolie femme.
Bien hein. sûr. Alors, vous avez dû être enchanté donc l'été dernier à Étretat en voyant Edwige Bourdi sur la scène des Bouffes étretatées.
Et puis, je la connaissais tout de même. Et j'ai été très surpris aussi parce que j'ai trouvé que votre nouvelle présidente était charmante.
Absolument.
Alors, j'explique aux auditeurs, cher Jacques Bourdon, là parce qu'on se retrouve au début du mois d'août à Étretat en plein festival Offenbach qu'anime Yves Coudray. Bonjour Yves.
Bonjour Benoît.
Et merci d'être avec nous depuis déjà quelques années. Il se trouve qu'on a l'habitude de se voir là-bas parce qu'Étretat, c'est un peu la patrie d'Offenbach. Mais j'imagine, Yves Coudray, que de jouer justement avec l'ombre de Jacques, la maison au loin, les descendants directs, ça doit être un petit peu impressionnant. Non, vous sentez cette présence encore d'Offenbach dans la chair d'Étretat?
Oui, en tout cas, Offenbach est là, ça c'est sûr, oui. et je crois que les habitants d'Étretat sont très contents qu'on fasse revivre ces moments-là. Oui. C'est pas très impressionnant, parce que c'est plutôt très, très inspirant et très agréable. On se sent plutôt soutenu par cette présence-là.
Suzy Delaire, qu'on vient d'entendre, c'est pour vous aussi un modèle
Ah oui, c'est formidable. C'est formidable, surtout dans Metella. C'est tellement l'incarnation de Metella, tout ouais. chez elle. Cette extraordinaire féminité, le côté canaille et chic en même temps, la manière ouais. de détailler les mots, de savoir quand on peut parler, quand il faut chanter, parce qu'elle chante. Vraiment, ouais. elle a une vraie science du souffle.
La limite d'ailleurs du chant et de la chanson, Edwige Bourdi, c'est quelque chose qui vous concerne beaucoup aussi dans votre travail.
Oui, de chanter, mais avec les mots, faire entendre les mots et puis quand même faire attention aussi à la façon de chanter et tout ça, mine de rien quoi, ça c'est... Et je dois dire que quand j'ai des choses à travailler souvent, j'écoute sur YouTube s'il y a quelque chose de Suzy Delaire pour voir si je peux avoir petite référence,
une référence
parce que je l'adore évidemment.
Bon, merci en tout cas d'être tous avec nous aujourd'hui et merci particulièrement cher Jacques Bourdon, comte Offenbach, on va revenir sur ce nom à tiroir dans un instant, mais merci. J'ajoute quand même pour finir sur Étretat, vous êtes à Étretat comme descendant de Jacques Offenbach, mais en réalité c'est pas du tout par Offenbach que vous êtes arrivé à Étretat.
Alors je vais vous raconter, ma mère passait tous ses étés à Étretat. Et elle m'avait raconté qu'on lui mettait son lit en portefeuille régulièrement. Et c'était, je crois, les Buckley qui étaient...
Des cousins.
Et en fait, moi-même, je n'y avais jamais été jusqu'au moment où j'ai connu Martine Belin.
Voilà, votre épouse.
Oui, mon épouse.
Et c'est elle qui vous a...
Belin m'a dit un beau jour, bah, écoute, maintenant qu'on se connaît, son mari venait de mourir, ma femme était morte, mais il n'y a pas longtemps non plus... elle m'a dit, mais écoute, si ça te fait plaisir, viens à Étretat. Je suis arrivé à Étretat, chez ce merveilleux pâtissier que nous n'avons malheureusement...
Qui s'appelait Le Cœur.
Et dans la vitrine de Le Cœur, comme j'étais un peu en avance, je vois un gâteau, le Brésilien. Ah, mais je dis, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous savez où est la villa Orphée? Elle m'a dit, bien sûr. Et je suis monté à la villa Orphée avant d'aller chez les Blins. Et puis, je ne suis pas entré, mais j'ai regardé et je suis descendu chez les Blins, où depuis je vais régulièrement.
Chaque été, assister notamment au festival Offenbach.
Entre autres.
En tout cas,
avec grand plaisir.
Le Brésilien, vous avez raison, c'est un gâteau très connu là-bas et qui tire évidemment son nom d'une autre scène de la vie parisienne. Vous le connaissez, Yves Coudray?
La vie parisienne
non,
ou le
Brésilien.
Je ne connais pas ce gâteau, malheureusement, on ne le fait plus.
C'était très bon. Hein.
On le dit, c'est une légende à Étretat.
On va revenir tout à l'heure à Étretat, à Offenbach, évidemment, beaucoup au spectacle que vous montez au Théâtre de Poche à Montparnasse. Yves Coudray, mais on va commencer par remonter un petit peu dans le temps, dans l'histoire personnelle de Jacques Bourdon.
Thank you.
Jacques Bourdon au piano dans ses jeunes années. Pardon.
Je vous ai tout dit pour le piano.
C'était Jean-Frédéric Neuburger dans une étude de Xerny. Mais non, mais vous avez grandi avec le son du piano, avec une mère bonne pianiste, qui a essayé de vous faire travailler la technique, non, mais qui n'a pas vraiment, qui n'a pas vraiment réussi.
Que par tradition, tout petit, elle s'est dit, je vais mettre Jacques au piano.
Oui, Jacques, c'est vous, professeur hein, Jacques Bourdon.
Ah ben, tous les hommes un peu s'appellent Jacques, mais il n'y en a plus beaucoup. Et en fait, on m'a mis au piano. Et le professeur m'a regardé, elle a commencé à jouer, je me suis mis à hurler et crier « À peur ! À peur !» Et on a considéré que ce n'était pas la peine d'insister. Je me suis caché sous ce piano à queue qui était dans le salon où je vis actuellement, mais où n'est plus le piano, et on s'est rendu compte que je n'étais probablement pas très musicien. Voilà mon histoire. Voilà,
vous n'êtes pas devenu
de
musicien, mais vous êtes resté Offenbach par votre mère. On va expliquer comment. À quel âge vous avez compris que vous descendiez d'un homme célèbre?
Rapidement. Rapidement, parce que...
C'était très présent dans la famille.
Oui, j'entendais dans la famille parler beaucoup du théâtre, où on disait...
Le théâtre, c'est les bouffes parisiens, voilà, qui sont toujours dans votre famille, on va l'expliquer.
Alors, en fait, à partir du moment où on parlait des bouffes, on parlait d'Offenbach.
Bien sûr.
Et j'ai demandé, tout de même, vous savez que ma mère s'appelait pour voir comment. Donc, très vite, j'ai été au courant, mais pas tellement, si vous voulez, dans l'histoire de la musique du grand-père, de ce qu'il a fait, mais bien
cadré.
Le théâtre
des bouffes parisiens.
Et le théâtre des bouffes parisiens.
Vous n'avez pas connu, quand vous étiez encore tout petit, à la fin des années 20, au début des années 30, des personnages qui auraient eux-mêmes connu l'illustre aïeul? Ils avaient tous disparu déjà.
Ils avaient tous disparu.
En tout cas, votre mère était donc l'arrière-petite-fille de Jacques Offenbach.
Alors, je vous dis très, très rapidement comment ça se passait. Il y a donc eu un certain nombre de filles et un fils.
Voilà.
Et la fille aînée de Jacques Offenbach s'appelait Berthe. Et Berthe est mon arrière-grand-mère.
Voilà.
Et Berthe s'est mariée avec un monsieur comte. Et quand le fils de Jacques est mort, on s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Ils ont repris au Conseil d'État le nom d'Offenbach. Ils sont devenus comte Offenbach.
Le fils de Jacques Offenbach est mort donc sans descendance, d'où le fait que le nom d'Offenbach a été accolé dans votre branche aînée.
Absolument.
D'où votre nom, donc Jacques Bourdon, comte Offenbach.
Alors ça, si vous voulez, je l'ai rajouté parce que finalement... Ça me faisait plaisir. Alors, de temps en temps, mon père me dit, ne pousse pas trop, parce que n'oublie pas que tu es un Bourdon aussi. Alors, je n'oublie pas, c'est bien évident. Il le sait, il ne m'en veut pas. Mais c'est comme ça, en fait. Et donc, si vous voulez, très rapidement, mon grand-père s'appelle Jacques comte Offenbach, et c'était le fils de Berthe.
Oui, bien sûr. Oui.
Berthe a eu deux fils, Jacques comte Offenbach et René comte Offenbach.
Mais alors, ce qui est extraordinaire dans cette branche de la famille Offenbach dont vous descendez, cette branche aînée, même s'il y a beaucoup d'autres cousins par ailleurs, c'est que ce sont les comtes Offenbach, et monsieur comte est quelqu'un qui compte aussi beaucoup dans l'histoire des théâtres parisiens, puisque c'est votre aïeul comte qui a en fait fondé le théâtre des jeunes élèves dans les années 1820-1830, qui allait devenir le théâtre des bouffes parisiens.
Parfaitement. C'est exactement ça.
Il a ouvert d'abord ce théâtre...
Alors, il a ouvert ce théâtre dans un passage qui n'était pas le passage Choiseul. Et après, il a fait des travaux au passage Choiseul avec un premier refonte complète de la salle. Et il s'est mis à l'exploiter. Jusqu'au jour, on lui a interdit de faire jouer des enfants.
Parce que c'était un théâtre d'enfants, oui, c'est ça.
Oui, absolument.
Voilà.
Et il a passé ça à son fils, qui lui, alors tout de suite, l'a ouvert et a permis...
À Offenbach de venir s'y installer. Voilà,
Que
parce que Offenbach, à ce moment-là, avait son théâtre d'été aux Champs-Élysées.
Absolument.
Et il a ouvert donc...
rapidement, un théâtre d'hiver.
D'hiver,
qui était
aux Bouffes parisiens. Au fond, dont son gendre était en quelque sorte le
propriétaire.
Il n'était
pas encore son gendre. Il n'était pas encore son gendre. Il s'est marié plus tard, il s'est marié en 65.
Mais si aujourd'hui, vous, Jacques Bourdon, vous êtes toujours le propriétaire avec votre famille des bouffes parisiens, c'est par la famille Comte ou par la famille Offenbach?
C'est par la famille Comte Offenbach.
Comte Offenbach.
On n'en sortira pas.
Vous avez des souvenirs lointains de ce théâtre, de vos premiers spectacles là-bas que vous êtes allé voir?
Mon premier spectacle C'était pendant la guerre. Et ça s'appelait les J3.
Ah oui.
François Perrier, Jacqueline Porel. C'était, je crois, la première fois où j'ai été au Bouffe Parisien.
Les J3, c'est comme ça qu'on appelait les jeunes gens qui étaient trop jeunes pour partir
Les J3, c'était dans les cartes de rationnement.
C'est ça,
Et les J3, c'était déjà des gens un peu plus âgés, enfin 14-15 ans, quelque chose comme ça. Et ça a eu un succès considérable. Ouais. Ça s'est joué plus de 1000 fois, si mes souvenirs sont bons.
Donc
on
ne faisait déjà plus seulement de la musique au Bouffe Parisien à ce moment-là. Beaucoup de théâtre.
Non. Ouais. Finalement, au Bouffe Parisien, et malheureusement, on n'a pas fait énormément de musique. Hein.
Après la guerre, du moins.
Oui, après la guerre.
Hein. Alors, on va écouter une des œuvres de votre arrière-arrière-grand-père que vous aimez beaucoup, Jacques Bourdon. C'est Le Château à Toto. Œuvre peu connue, hein ?
Très peu, et que je connais mal. Je l'ai vu une fois dans ma vie, j'étais enthousiasmé.
Voilà.
À Boulogne, au théâtre de Boulogne, j'ai vu Le Château à Toto. Et alors, ça m'amusait parce que mon père, pendant la guerre, était dans un aérostier. Les aérostiers refaisaient les cordages des saucisses en un rien de temps et on l'appelait Toto. Et on lui disait, la nacelle, c'est le château à Toto, sans savoir. Alors le jour où on s'est précipité, j'ai beaucoup aimé cette... Je compte sur Yves pour la monter un jour.
Et dans Le Château à Toto, il y a un facteur, même un facteur de campagne, un peu comme le facteur de Tati dans les jours de fête. C'est le facteur rural qui nous chante son air par la voix d'Emédonia.
Ah, formidable.
Ah, c'est elle.
Drôle de facteur.
Madame la vicomtesse de la Farandole, s'il vous plaît.
C'est moi, mon ami.
Une lettre pour madame la vicomtesse de la Farandole, s'il vous plaît.
Eh bien, remettez-la à quelqu'un, cette lettre.
Impossible, elle est chargée. Il faut que madame la vicomtesse se donne la peine de descendre afin de donner un reçu au joli facteur.
C'est bien. J'achève de m'habiller, je descends.
Personne ne m'a reconnu. Personne ne me reconnaîtra. Comment me reconnaîtrait-on ?
Je suis le facteur rural, un bel état, mais c'est égal. Il faut se donner du mal quand on est facteur rural. À Paris, mes brillants confrères font leurs courses en omnibus. Mais ici, dans nos humbles sphères, nous les faisons comme pédibus.
Et c'est une grave question de savoir si pour marcher beaucoup, il vaut mieux avoir de grandes jambes que de petites. Au premier abord, il semble qu'il vaut mieux en avoir de grandes, parce qu'avec de grandes jambes, on fait de grandes enjambées. Mais avec de petites jambes, on fait de petites enjambées, mais on en fait plus. Alors, ça revient à peu près au même. Ça, du reste, ce sont des questions pour les savants. Moi, ça ne me regarde pas. Moi, je suis pas savant. Je suis le facteur rural. Un bel état, mais c'est égal. Il faut se donner du mal quand on est facteur rural. Avec les lettres, on s'en tire, mais ce qui me rend presque fou, messieurs, je m'en vais vous le dire, ce sont les journaux à un sou. Il y en a de ces journaux, il y en a. Tous les jours, on en invente de nouveaux, et avec des titres. Ainsi, dernièrement, j'ai porté une jeune dame un prospectus ainsi conçu. Nous venons de fonder un nouveau journal, il s'appelle Le Fouet, vous le recevrez tous les deux jours. La jeune dame a rougi, le mari qui était là s'est fâché contre moi, mais il a eu tort. Est-ce que cela me regardait, moi? On me dit de porter cela, je le porte, je ne suis pas journaliste, moi. Je suis le facteur rural, un bel état, mais c'est égal. Il faut se donner du mal quand on est facteur rural.
Le facteur rural du Château à Toto dans cette version chantée par Emédonia sous la direction de Marcel Cariven. Je me tourne vers vous, Yves Coudray, vous qui connaissez si bien Offenbach, entre Etrota et votre spectacle à Paris, plein d'extraits rares. Vous connaissez le Château à Toto ?
Eh oui, j'ai vu la même représentation que Jacques.
Que Jacques Bourdon.
Absolument. C'était un spectacle assez formidable. Moi, je n'avais jamais entendu parler de cette œuvre. Donc, je m'y suis précipité aussi. Et je me souviens d'avoir beaucoup ri à ces couplets du facteur rural. Et ce qui est très amusant dans Le Château à Toto, c'est qu'on retrouve des personnages de la vie parisienne, dont la fameuse Blanche Taupier, qui est le sujet de discorde entre Bobinet et Gardefeu, Et en fait, c'est un des personnages du château à Toto. Et dans le spectacle, dans les jeux de l'amour et de Offenbach qui se donnent aux poches, j'ai fait une petite référence à ça, puisqu'il y a un des personnages qu'on évoque, qui est une question de rivalité, justement, entre les deux chanteurs, qui est la petite taupier dont on parle. Voilà.
La petite taupier, voilà. Vous sentez prête pour les premières représentations, Edwige Bourdi?
Complètement, on se régale, on répète dans ce petit écrin qu'est le théâtre, de, théâtre poche. De poche. C'est formidable. Ah oui, ça va être formidable.
Non, mais c'est un spectacle que j'ai vu en avant-première à Étretat. Je veux dire, c'est ravissant parce que ça raconte, au fond, la musique d'Étretat, l'histoire de deux comédiens au 19e siècle. On va y revenir.
Mais... Moi, la première fois que j'ai été en contact avec cette histoire, avec cette pièce, en fait, je l'étais en tant que spectatrice puisque j'avais vu Guylaine Raffanel et Franck Le Guérinel.
Qu'il avait créé à Étretat.
Moi, je l'avais vu à Compiègne, au théâtre de Compiègne. Et dans mon souvenir, quand j'ai vu la partition, je disais, il y avait tout ça, il y a beaucoup de musique, toutes ces musiques. Pour moi, c'était vraiment quelque chose qui se racontait, c'est-à-dire que tout s'enchaîne, les textes, les musiques, tout ça, on ne se rend pas très bien compte. C'est formidable.
Et on va y revenir dans un moment. J'imagine que vous irez, d'ailleurs, Jacques Bourdon, vous aussi, vous avez peut-être déjà vos places même.
J'ai déjà mes places, vous pensez.
Mais revenons un petit peu avant le théâtre de poche à ce théâtre des Bouffes Parisiens, qui est quand même un des lieux mythiques de l'histoire du théâtre et de l'opérette en particulier, le théâtre d'Offenbach, devenu par la suite le théâtre de Villemesse. Donc vous êtes propriétaire avec votre famille du bâtiment. Qui est resté toujours dans votre famille, ce qui est une lourde responsabilité,
absolument,
j'imagine. Alors,
absolument,
le bâtiment actuel, avec ses grandes verrières en fer, il est en partie de Gustave Eiffel.
Alors, la façade sur la rue Monsigny, métallique, c'est les ateliers de Gustave Eiffel.
Les ateliers de Gustave Eiffel.
Mais par contre, le passage Choiseul, ça n'a rien à voir. Le passage Choiseul, c'est très beau maintenant, ça vient d'être complètement refait. Alors, nous avons un certain nombre d'arcades sur le passage Choiseul. Il y a un arcade pour la sortie, il y a un arcade bureau, il y a un arcade pour les loges, qui appartiennent pas toutes à nous d'ailleurs, parce que Jean-Claude Brialy avait racheté pour sa loge personnelle une arcade et autres, qui est restée et qui fait partie alors, du théâtre, qui est au théâtre. C'est pas, nous ne sommes propriétaires que de la salle, de ce qui est au-dessus et de la sortie, plus d'une partie des bureaux. Voilà.
Et la famille a donc confié au fil du temps le théâtre à différents gestionnaires, directeurs, dont le plus célèbre, évidemment, a probablement été Albert Villemette, entre les deux guerres.
C'est le plus célèbre. Il y a eu Quinçon, il y a eu Albert Villemette, et Albert Villemette, c'est une longévité extraordinaire.
Oui.
Parce qu'en fait, c'est 30 ans de règne.
Oui.
Parce que même, après où il avait des responsabilités, il continuait à y venir et autres. Et à ce moment-là, il avait confié la direction, à la fin, c'était en 50 à peu près, à son beau-frère Truchot, et à Claude Villemette,
son fils voilà, que vous avez connu d'ailleurs.
J'ai connu,
à l'époque.
Je l'ai bien connu.
Donc vous avez continué, vous, à aller au théâtre comme spectateur, mais dans votre théâtre, en quelque sorte.
J'y vais comme spectateur, invité par mon théâtre, et j'ai assisté pratiquement à toutes les pièces qui se sont jouées. J'ai des souvenirs, si vous voulez, depuis un peu plus tard que les J3 quand même, mais...
Des fifis en quantité, par exemple.
Et, des fifis, on en a repris plusieurs fois. Et puis, vous avez eu Folamanda, vous avez eu... Je ne sais pas, parmi tous ces grands acteurs, qui n'y ont pas joué. Ils ont tous joué au Bouffes Parisiens à un moment quelconque.
Mais alors, est-ce que vous êtes un peu... Je ne vais pas vous faire un reproche, cher Jacques Bourdon, je suis trop heureux que vous soyez là, mais est-ce que vous êtes un peu responsable, vous et votre famille, du fait qu'on a supprimé la fosse d'orchestre de ce grand théâtre musical?
Ça, nous n'en sommes pas. Elle n'est pas supprimée, elle a été... Et je pense qu'ils peuvent, s'ils en ont envie, la rouvrir.
La rétablir.
Il faut maintenant, si vous voulez, que les moyens de nos locataires soient... et qu'ils aient envie de le faire.
Bien sûr.
Alors, le président actuel m'a dit, Jacques, pour tes 100 ans, je te promets une opérette de ton grand-père. Et je lui ai répondu il n'y a pas très longtemps, je lui ai dit, commencez tout de même à la répéter, parce que 100 ans, c'est tout de même pour moi dans 11 ans.
Alors que 90, c'est pas trop loin.
Alors 90, c'est pas
mieux.
Loin, mais c'est peut-être un peu court.
Enfin,
je ne sais pas. Mais j'espère beaucoup qu'un jour, parce que finalement, Niki Nancel, qui était une des directrices après Madame Mondovi, avait donné la Belle Hélène.
Que j'ai vue.
Et puis, je voudrais, si je ne me trompe pas, Jean-Claude Brialy
avait monté Le Sire de Vergy.
Le Sire de
ravissante opérette de Claude Barras.
Ravissant, oui. Ouais.
Et bien alors, je vous propose, pour évoquer encore un petit peu l'histoire de ce théâtre, alors là, on est en plein au début de la grande époque Villemette, avec cette œuvre que vous aimez particulièrement, Fifi, chantée par Bourvil.
Blanches rondeurs aux contours délicieux, les païens sont un régal pour les yeux. Ils ont tous, malgré leur forme régulière, leur physionomie particulière. Les uns lèvent la tête sans se gêner. Y'en a qui vous regardent l'air étonné, d'autres pudiquement baissent le nez. Qu'ils soient monticules ou promontoires, des pommes, des oranges ou des poires, les jolis petits païens, c'est toute la femme. Mais oui, madame, je le soutiens. Ah, quel plaisir quand nos yeux les devinent. Ah, quel plaisir quand nos doigts les lutinent. Ils font bientôt sous notre étreinte des bons et même des pointes quand on les a dans la main. Mais oui, madame, c'est toute la femme qu'on tient. Hommes mariés ou bien célibataires, nous courons tous après ces globe-trotters. C'est autour de ces map-mondes si petites que pourtant le monde antigravite. Des hespérites, c'est le double jardin. Les fétiches dont nous sommes les pantins, éternel néné, rince en sein. De l'amour, c'est la vivante cible. Même caché reste visible. Les jolis petits païens, c'est toute la femme. Mais oui, madame, je le soutiens. Ah, quel plaisir quand nos yeux les devinent. Ah, quel plaisir quand nos doigts les lutinent. Ils font bientôt sous notre étreinte des bons et même des pointes quand on les a dans la main. Eh oui, madame, c'est toute la femme qu'on tient. Quand on les a dans la main. Mais oui, madame, c'est toute la femme qu'on tient.
Fifi par Bourvil sous la direction de Marcel Caribène. Vous en aviez donné d'ailleurs quelques extraits au festival d'Étretat, Yves
oui,
Coudray, l'an dernier.
Oui, l'année dernière, parce que pour fêter les 10 ans du festival, j'ai souhaité monter un grand ouvrage. Donc on a monté La Belle Hélène, qui était peut-être un des seuls qu'on pouvait monter dans le cadre un peu particulier d'Étretat. Et donc on a fait toute une série de concerts autour, dont un qui parlait de l'Antiquité dans la musique.
Voilà, et avec Fifi. Et c'est quoi les petits païens? Rappelez aux auditeurs qui ne savent pas, parce qu'on vient d'entendre la chanson des petits païens, mais ça a un sens, dans le goût des calembours très spécial de Villemette, ça a un sens très particulier.
Très particulier, c'est-à-dire que Fifi, c'est le surnom de Phidias, le sculpteur de la Grèce antique, et donc, comme nous sommes avant l'ère chrétienne, les saints n'existent pas. Donc, on dit les petits païens.
Pour parler voilà. Des poitrines.
Pour la parler de la poitrine. Voilà.
Vous connaissez depuis quand, Edwige et Yves?
Ouh.
Moi, je dirais... petite trentaine d'années, ouais. Non ?
Presque 30 ans. Non. Presque 30 ans. Oui, oui.
Ça a commencé à la Péniche Opéra ou
avant
même ?
Avant.
Au conservatoire ?
En fait on n'était pas en conservatoire ensemble, on a chanté. Edwige a eu le je ne sais pas si c'est un privilège, mais en tout cas l'étonnant d'être dans la première mise en scène que j'ai faite.
Oui,
voilà,
oui.
J'ai remplacé un metteur en scène.
Au pied levé, parce que le lendemain de la première répétition, bon, il a disparu. Et donc, Yves a dit, je m'en charge.
Oh, tu es très gentil, mais non, enfin, je dois rétablir la vérité. Vous êtes retourné vers moi en disant, Yves, tu veux le faire? Et comme je l'ai, j'ai dit d'accord. Et ça a été donc ma première mise en scène avec Edwige.
C'était fabuleux.
Mais tout ça pour dire qu'en tout cas, à Étretat, au théâtre de poche pendant des années à la péniche, dans d'autres lieux. Il y a quand même une espèce de bande d'amis, d'artistes, de chanteurs qui travaillent ensemble depuis des années autour de ce répertoire et dont vous êtes deux des figures de proue. Hein.
On a effectivement beaucoup œuvré à la Péniche Opéra, oui, avec Lionel Peintre qu'on retrouve aussi.
Qu'on retrouvera au théâtre de poche avec Franck Le Guérinet dont on a parlé tout à l'heure, avec d'autres encore. Jacques Bourdon, je me tourne à nouveau vers vous. Donc on a compris que vous n'aviez pas la vocation musicale, même si vous aimiez le théâtre et la musique d'Offenbach. Donc finalement, vous êtes.
J'aime toutes les musiques, même.
Oui.
Et je suis très, très amateur. Mais de tous les grands compositeurs, hein, ne croyez pas que je sois limité.
Ah, Offenbach, bien sûr.
J'aime Offenbach plus que les autres.
Mais du coup, vous êtes tourné vers les métiers de l'industrie, de la finance, etc. Alors, très loin de la vie des théâtres.
Tout à fait. J'étais jusqu'au jour où j'étais amené à reprendre
l'organisation pour la famille,
pour les propriétaires, et à m'occuper du théâtre un petit peu avant la disparition de maman. Donc ça date de 1993. Alors là, je suis entré carrément et dans le théâtre et également dans la musique de mon cher aïeul.
Et puis, d'autres tâches plus modestes, comme d'entretenir la tombe d'Offenbach au cimetière en Montmartre.
Je continue, ça c'est moi qui m'en occupe personnellement.
Personnellement. Fait.
Ah oui. Et je serais heureux de vous la montrer.
Ah ben j'aimerais bien y aller un jour avec vous.
Tous les ans, je la fais nettoyer et je vais moi-même très souvent, parce que la tombe de mes parents étant juste à côté, et ce sera probablement la mienne, malheureusement un jour...
Le plus tard possible.
La tombe d'Offenbach a été complètement remise en état, les bronzes refaits, enfin, elle est belle.
Alors votre curiosité pour tout ce qui se passe donc au théâtre, dans la musique, va aussi vers certaines compagnies qui font un travail modeste mais très important. Je pense en particulier, vous êtes très lié, je sais, au Tréteau Lyrique.
C'est tout à fait par hasard. Oui. Et ce sont des jeunes extrêmement sympathiques que j'aime beaucoup et qui... donne une pièce d'Offenbach tous les deux ans. Ils passent leur samedi, leur dimanche.
Vous dire, ce sont des amateurs éclairés.
Des amateurs éclairés, parce que dedans, il y a tout de même quelques professionnels, quelquefois. Et ils se sont pris d'amitié pour moi et moi d'amitié pour eux. Et finalement, je dois dire qu'ils ont monté des choses de façon sympathique, dont la princesse de Trébizonde, que je ne connaissais pas, et ils avaient fait vraiment un tabac.
Voilà, alors c'est très intéressant parce qu'effectivement, j'ai regardé, ils ont monté des quantités d'œuvres qu'on ne voit jamais.
Ils ont fini par La Vie parisienne, ça c'était bien connu, mais à Noël dernier, à Gaveau, ils ont, puisque ils louaient en général l'espace Cardin. Et puis Cardin n'a pas eu le renouvellement de sa concession, et finalement, donc ils sont venus à Gaveau.
Pour la représentation.
Pour les représentations.
Pour les représentations. On va justement, une transition toute faite, écouter un extrait de La Princesse de Trébizonde, en coup de chapeau au Tréteau Lyrique. C'est encore, comme Le Château à Toto ou La Jolie Parfumeuse, dont on parlera dans un instant, une de ses œuvres très importantes, mais qu'on ne voit jamais à l'affiche, il faudrait. Hein.
Absolument. Cela dit, ça a été repris il y a deux ans, je crois, à Saint-Étienne, La Princesse de Trébizonde. Mais ça faisait des années que ça n'avait pas été joué, oui.
Alors, dans La Princesse de Trébizonde, il y a beaucoup de belles musiques. Et puis, je suis désolé, c'est encore Aimé Donia, on voit la diversité de son registre.
Ne soyez pas désolé, Benoît, c'est un des chanteurs que je préfère au monde.
Et il chante notamment cet air qui parle d'un grand problème de l'humanité, le mal aux dents.
D'où vient cette crise soudaine? Et quel est ce nouveau détour? Mon fils, la chose est certaine, s'apprête à me jouer un tour. Il a mal aux dents. Il a mal aux dents. J'ai mal aux dents, à quel tourment, quelle souffrance. Ah, j'ai mal aux dents, ah, ça m'élance. Ah, si je l'osais, de rage je mordrais, de rage je mordrais. Ah, quel triste état, papa, ça me bat.
papa, papa, ça me bat. C'est trop souffrir, est-il un élixir pour me guérir? Ah, rien n'est égal à ce mal infernal. Ça m'agace. Ah, j'ai mal aux dents. Ah, je ne puis aller en chasse. Ah, j'ai mal aux dents. Ah, ça m'agace. Ah, je ne veux pas du dentiste, en tout cas, ne le demande pas. Il faudrait tâcher de guérir sans arracher. C'est trop souffrir, est-il de l'élixir pour me guérir? Rien n'est égal à ce mal infernal.
La princesse de Trébizonde par Aimé Donia. Ça a l'air de vous plaire, Jacques Bourdon.
Beaucoup. Merveilleux. Et je me rappelle, c'était d'une gaieté. On avait été tous... Ça a été rejoué après. Et vraiment, j'ai passé une excellente soirée. Merveilleuse.
Vous avez encore chez vous des bouts de manuscrits, oui, des choses rares. Parce que je sais que dans cette nombreuse famille, il y a beaucoup de partitions encore en partie inédites.
Là, les choses ont été, je crois, compliquées. Oui. Mais j'ai toute une série de choses qui...
De pages manuscrites, d'extraits d'œuvres.
Oui, des extraits, mais même quelquefois des petites partitions complètes. J'en ai pas énormément. Et aucune des grandes. Hein. Les grandes ont été malheureusement... Par contre, nous avons tous les costumes des opérettes faits par Grévin ou les ateliers de Grévin.
Les dessins, donc les maquettes de costumes.
Oui, enfin. C'est très colorié, c'est ravissant. Ça, c'est maman qui les avait toutes reçues. Et j'en ai donné à mes enfants et autres. Et toute l'entrée, j'ai rien changé. Tout ce qui est Offenbach, Square du Roulier, toujours.
On en profite d'ailleurs pour saluer notre excellent ami Jean-Christophe Keck, qui justement fait ce travail très important pour l'édition de la musique d'Offenbach et qui va voir tous les membres de la famille pour essayer de recoller les morceaux.
Et je pense que j'ai d'excellentes relations avec lui et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je le vois pas souvent. Maintenant, il ne vient pas souvent à Paris. Avant, il avait une émission. Avant, il allait sur la péniche. Maintenant, plus. Donc, je le vois pas aussi souvent que je voudrais. Mais j'étais une fois à son festival.
À Bruniquel, Bruniquel.
Oui, à Bruniquel.
L'autre festival Offenbach.
Absolument.
Vous n'êtes pas en concurrence, Yves Coudray.
Pas du tout. En plus, c'était très bonne relation avec Franck Tézan et avec, avec Jean-Christophe, qui est vraiment passionné.
Et alors, ça va vous amuser. On avait donné la vie parisienne. Et il y avait un vent à décorner épouvantable. Et le maire avait été obligé de faire venir tous les gens de ses services pour tenir les décors. Quant aux partitions des musiciens, je ne suis pas sûr qu'elles aient été jusqu'à la fin. Car après, il n'est pas à jouer. Enfin, c'était super. Et alors après, il y avait un dîner avec tout le monde qui a commencé à 3h du matin. On a passé une nuit blanche.
Table douce, hein.
C'est très amusant. Oui. Alors maintenant, il la joue plus courte. Hein. Il donne plus volontiers une opérette en un ou deux actes que quelque chose de trop long.
C'est d'ailleurs un des problèmes qui se pose quand on a un petit festival avec des moyens modestes que de pouvoir monter les grands ouvrages d'Offenbach, même si Yves Coudray, vous aviez monté à Etretat la Belle Hélène.
Oui, mais c'est, enfin, en tout cas, en ce qui concerne Etretat, c'est aussi beaucoup une question d'adéquation au lieu, parce que le lieu est très petit.
Ben, oui.
Et en plus, j'ai toujours préféré faire avec ce qui était possible plutôt que de réduire des grands ouvrages, d'en donner une version qui serait qu'un ersatz. Je préfère me concentrer sur des choses qui ne sont jamais jouées. C'est la plupart des choses qu'on fait à Etretat, à part peut-être Monsieur Fleury cette année, mais sans ça, on a fait vraiment des choses très très rares.
Donc là, vous présentez au Théâtre de Poche, à Montparnasse, un spectacle qui avait été créé à Etretat, mais qui témoigne de votre aussi, de votre curiosité, j'imagine, plus ancienne, pour tout ce répertoire, et pour Offenbach en particulier.
Absolument, absolument. En fait, j'étais au tout début du festival, c'est Guylaine Raffanel qui a fondé ce festival, et elle m'a proposé de mettre en scène un ouvrage qu'on n'a pas pu faire, finalement. Et puis, j'ai donc proposé d'écrire pour elle, et pour Franck Le Guérinel, et Hélène Planic, qui tenait le piano, une espèce de dictionnaire amoureux, en fait, du répertoire d'Offenbach, avec évidemment des choses très connues parce que le public aime retrouver ça, et puis aussi des choses vraiment absolument inconnues pour faire découvrir au public, et puis aussi ça me permettait d'étayer mon histoire. Voilà.
C'est un principe d'ailleurs, au fond, c'est pas la revue, mais enfin qu'on trouve dans un certain nombre de spectacles sur l'opérette, que de trouver un fil conducteur et puis d'en profiter pour faire entendre des morceaux très, très variés.
Voilà, absolument. C'est ce qu'on appelle un pasticcio en fait.
Et pasticcio, voilà.
Voilà. J'ai écrit d'abord une histoire et puis je me suis mis à la recherche de. On est aussi parti des choses qu'on avait envie d'entendre, qu'on avait envie de chanter.
Ouais.
Et puis, autour de ça, j'ai bâti une histoire. Et puis après, j'ai cherché des choses qui pouvaient rentrer, qui pouvaient raconter en fait l'histoire d'un couple de deux chanteurs qui se sont connus 20 ans avant et qui se sont séparés de manière très brutale, puisque lui a même fait une tentative de suicide, on l'apprend dans le spectacle. Et puis, des années plus tard, il décide de revenir au théâtre. Et il se trouve qu'Offenbach organise des auditions dans le salon de son directeur. Et comme par hasard, ce que c'est que l'événement théâtral tout de même, ils se retrouvent là 20 ans après leur séparation et...
Et ils ne se reconnaissent pas d'abord.
Au départ, ils ne se reconnaissent pas et c'est à la faveur d'un duo.
C'est comme dans La Cantatrice Chauve, cette longue scène où ils finissent par découvrir qu'ils sont mariés et femmes. Là, ça va un peu plus vite.
Mais... Voilà, ça va un peu plus vite. Mais à la faveur d'un duo, en fait, ils reprennent presque par automatisme leur place. La petite chorégraphie qu'on fait d'habitude à cet endroit-là. Et au moment où ils se retournent l'un vers l'autre, c'est ça, seulement à ce moment-là qu'ils se reconnaissent. Et donc, on finit par suivre leur histoire d'amour, comment ils se sont connus, comment ils se sont aimés, comment ils sont détestés et puis comment ils vont se retrouver après.
Voilà, donc tout se passe dans l'antichambre de Monsieur Offenbach et ces deux chanteurs racontent leur vie en musique. Et à un moment, donc, parle de ses désirs amoureux irrépressibles et nous chante ce merveilleux air de Pomme d'Api.
Distraire. Pour oublier mon amour.
L'air de Pomme d'Api que vous chantez donc, Edwige Bourdi, oui. Au Théâtre de Poche, dans Les Jeux de l'amour et d'Offenbach. Là, c'était Maddy Mesplé.
Oui, j'en profite pour lui faire un très gros bisou.
Toulousaine, toutes les deux, en plus.
Toutes les deux, oui.
Grande interprète aussi, notamment d'Offenbach, mais de tout l'opéra comique, de tant de musique.
Tant de choses, oui. Merveilleuse musicienne, merveilleuse chanteuse, vraiment.
Vous l'aviez choisi dans la première version, enfin au moment de la création, du moins Yves Coudray, cet air pour Guylaine Raffanel.
Absolument.
Ça va bien pour Edwige Bourdi. C'est comment de reprendre le rôle d'une autre chanteuse qui n'a pas exactement la même voix, mais en même temps, bon, les airs ont été écrits pour beaucoup de chanteuses, j'imagine.
Oui, alors quand c'est nécessaire, on fait des petites transpositions, des petits aménagements dans les cadences. Mais c'est intéressant et Yves est vraiment très très fort pour ça, c'est-à-dire pour tout le temps mettre en valeur les interprètes. C'est-à-dire qu'il connaît très bien quand il a quelqu'un, il sait exactement comment diriger cette personne. C'est-à-dire qu'il a une idée très précise de ce qu'il veut, mais en même temps, il fait avec la personne qu'il a en face, il sait l'amener là où elle est vraiment, au mieux de sa personnalité, de sa voix. Et donc, c'est un régal. Et là, donc, si des personnes viennent voir ce spectacle une fois, ils peuvent venir 12 fois parce qu'il va y avoir 12 combinaisons possibles.
Entre les trois pianistes.
Les trois pianistes et les deux
duo de chanteurs
qui vont aussi échanger. Et donc, chaque fois, ça va être différent, mais ça va être à chaque fois très,
voilà,
très formidable.
Voilà, parce que c'est une petite pièce légère, hein, donc un chanteur, une chanteuse, un pianiste, un très joli décor.
Oui.
Mais comme vous l'avez joué pendant longtemps, il y a deux équipes, même trois pianistes, donc qui vont alterner avec, comme
et
vous
donc,
dites, toutes
là,
les combinaisons.
Et donc là, j'ai répété beaucoup avec, donc, j'ai fait avec Jean-Michel Serini. Hier, j'ai répété avec Lionel Peintre. Jean-Michel a répété avec
Mélanie
Boisvert. Voilà, tout ça.
Et pour vous, à chaque fois, Yves Coudray, vous qui êtes l'auteur et le metteur en scène, c'est aussi du sur-mesure. C'est pas juste une chose écrite que tout le monde doit jouer pareil. Hein.
Ah oui, c'est très important de garder les personnalités. Et vous verrez aussi les trois pianistes, parce que c'est un vrai rôle pour la pianiste. J'ai vraiment voulu... je trouve toujours dommage quand on voit des pianistes dans un spectacle et faire comme si ça n'existait pas. Donc, c'est un vrai rôle, parler et jouer. Et on a vraiment des personnalités très, très différentes. Et j'aime beaucoup ça. Je trouve que ça offre beaucoup de variété au spectacle. Ça donne parfois des éclairages très différents même aux personnages, tout en étant effectivement dans des places qui sont quasiment les mêmes. Mais le caractère change beaucoup et du coup, l'écoute, l'échange est aussi différent.
Là, on retrouve
Yves, ce qui est formidable,
Jacques
va nous pousser à y aller trois fois.
J'espère.
Puisque, d'après ce que tu dis, c'est un peu différent à chaque fois.
Et puis les couleurs de voix sont très différentes aussi.
Bien sûr.
C'est pas vous, Jacques Bourdon, qui dirigez ce théâtre-là, c'est Philippe Tesson, hein, que j'avais reçu ici avec beaucoup de plaisir et qui aime la musique aussi.
Oui.
Et qui souhaite donner donc à ce théâtre de poche aussi une programmation musicale dont vous êtes au fond, avec le spectacle sur le bœuf sur le toit avant les vacances, un peu le démarrage, Yves Coudray.
Oui, et il y a aussi toute une programmation sur le cabaret qui est en train de se mettre en place et c'est vraiment formidable. Et c'est un lieu qui est vraiment tout à fait fait pour ça. On s'y sent, nous, ça fait quelques jours maintenant qu'on a pu travailler dans les lieu et c'est très agréable.
Dans ces Jeux de l'amour et d'Offenbach, on l'a dit, il y a un mélange de morceaux connus et pas connus. Il y a vraiment des petites merveilles qu'on va découvrir, hein, mis à part les grands airs de la vie parisienne, de la Péricole ou encore de la fille du tambour major. Parmi ces raretés, j'ai remarqué que par exemple, il y a une œuvre qui est citée plusieurs fois. Je ne sais pas si vous l'aimez particulièrement, c'est La Jolie Parfumeuse.
Je l'aime beaucoup.
Ah, Jacques Bourdon acquiesce.
Ça, c'est vraiment ça. C'est une de mes grandes envies. J'aimerais beaucoup pouvoir le monter un jour. Et chaque fois, on fait un duo et à chaque fois, les gens disent, oh, mais ce duo est magnifique. C'est un duo absolument ravissant, le duo des mariés.
Oui.
Et l'histoire est formidable. Ça se passe au 18e siècle. L'histoire est formidable. Les personnages sont vraiment très, très amusants, intéressants. C'est de la très belle musique. Et je l'aime beaucoup, oui.
Vous êtes chatouilleuse, Edwige Bourdi ?
Extrêmement.
Justement, parce que c'est là, on va pas écouter le duo des mariés, on va écouter Je suis chatouilleuse, hein, c'est ça ? Un autre air.
Un duo que j'aime beaucoup, c'est le duo de la mouche.
C'est dans Les Jeux de l'amour.
Je suis chatouilleuse, c'est pas ma faute. Quand on me chatouille, je fais un bond. Faut pas chatouiller, ou bien je saute. C'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi. Je redouble à fond mon plafond. Sapristi, ce petit bavolé a perdu la tête, je pense. Sapristi, faire une semblable dépense, lorsqu'à lui seul il suffisait. Sapristi, ce petit m'a volé, comment c'est par tout sapristi.
Oh,
oh, sapristi. Faut pas chatouiller, c'est pas ma faute. Vous me chatouillez, fini, c'est donc. Vous me chatouillez, ma foi, je saute. C'est bien simplement.
Il y a tellement d'Offenbach à découvrir et à redécouvrir, Yves Coudray. Ça ne vous empêche pas d'ailleurs de monter d'autres œuvres, hein, comme metteur en scène, notamment à Marseille, à l'Odéon et à beaucoup d'autres endroits. Mais ça paraît inépuisable, Offenbach.
Inépuisable, hein. Inépuisable. Ouais. Si on voulait faire une opérette par an au Festival d'Étretat, je crois que ma vie n'y suffirait pas.
Edwige Bourdie, vous aimez particulièrement chanter ce compositeur, vous sentez...
Oui, j'aime beaucoup. J'en ai pas chanté énormément.
Des rôles complets en scène.
Depuis quelques années, oui, je fais beaucoup d'ouvrages d'Offenbach, mais on a fait du Hervé à la Péniche et puis d'autres ouvrages. Mais je suis ravie. Ce n'est pas facile. Faut avoir l'air que ça coule de source.
Faut que ça ait l'air facile, bien sûr.
Mais c'est vraiment, je pense que même les gens qui chantent très bien s'accorderont à dire que c'est pas commode.
C'est exigeant.
Exigeant.
Jacques Bourdon, si ça marche bien, et ce qu'on espère d'ailleurs au Théâtre de Poche, vous touchez encore des droits sur l'œuvre de votre arrière-arrière-grand-père ?
Non, pas du tout.
Pas du tout ?
Non, non.
C'est
non.
Fini depuis
fini.
Longtemps ?
C'est fini.
Parce qu'au théâtre, on sait qu'il faut que tous les collaborateurs d'une œuvre soient disparus pour calculer...
Oui, il y a à la fois la musique et puis...
Les librettistes. Donc il suffit qu'un librettiste ait vécu jusqu'en 1940 pour que les droits soient prolongés.
Mais je peux vous dire qu'à la fin de sa vie, maman n'en touchait plus. Et Jacques Lang avait augmenté...
Pourtant, la durée de protection.
Hein, et les années de guerre ne comptaient pas. Et malheureusement, les années de guerre, il y en avait eu passablement. Non, non, maintenant...
En tout cas, Offenbach, heureusement, même sans droit, il est extrêmement présent. Alors, à cette rentrée, cité le Théâtre de Poche à Montparnasse. Il y a les Contes d'Hoffmann, à la Bastille, reprennent. Et puis, tout un spectacle produit par l'Opéra Comique au Musée d'Orsay, qui s'appelle Un dîner avec Jacques.
Oui, alors je ne sais pas ce que c'est ça. J'ai demandé, j'ai téléphoné, et j'attends, ils m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer un document sur ça.
Et ben, je peux déjà vous dire, en tout cas, que c'est un petit spectacle de théâtre et de musique, avec tous les airs extrêmement nombreux d'Offenbach ayant trait à la nourriture et à la boisson.
Le jambon, bon.
Avec les jambons,
sûrement le jambon.
Parce qu'il aimait les jolies femmes, il aimait aussi beaucoup la bonne chair, apparemment.
N'oubliez pas qu'il a eu une grosse crise de goutte.
Oui.
Qu'il a emmené.
Et c'est de ça qu'il est mort, absolument.
C'est de ça qu'il est mort.
Et puis, ce sera... à l'Opéra Comique cet hiver, Fantasio, un très bel ouvrage d'Offenbach. Et c'est aussi à Marseille, justement, notre ami Jean-Christophe Keck qui présente des petits ouvrages peu connus d'Offenbach le dimanche. Donc voilà, beaucoup, beaucoup d'Offenbach à l'affiche.
Je crois, œuvre rare.
Œuvre rare, exactement. Ouais. Voilà une actualité, en tout cas, très importante.
Ah oui. Mais en province, ils sont très actifs. Regardez, Lyon a été aussi... remarquable dans ce domaine.
Oui, avec le roi Carotte et d'autres ouvrages.
Alors, je ne sais pas si le spectacle était bon, je ne l'ai pas vu.
Il ne manque plus que le retour d'Offenbach au Bouffe Parisien, comme on l'a dit tout à l'heure, Jacques Bourdon.
On le souhaite, Jacques.
J'ai quand même un grand souvenir, c'est les Contes d'Hoffmann au Metropolitan à New York.
Oui, ça vous a marqué.
Et un deuxième, si je peux, un grand souvenir qui m'a fait découvrir, en 2009, le président du CIC m'a invité à un spectacle Offenbach, aux Invalides, pour la fête de la musique.
Ah oui.
Qui a été extraordinaire. Et j'ai découvert, là, tout à fait par hasard, je dis ça pour vous, ça va vous amuser, qu'Agnès Jaoui chantait de façon ravissante de l'Offenbach. Je ne l'avais jamais entendue.
Oui, mais elle, elle a pris des cours de chant, je crois. Hein. Elle a commencé par le conservatoire, je crois.
Bon, ceci étant, il y avait Béatrice, il y avait Raymond Doré. C'était... Et ça, j'ai un souvenir de ça, avec cette garde républicaine, l'orchestre, les chœurs. C'est exceptionnel.
Merci Jacques Bourdon pour votre enthousiasme offenbachien, toujours aussi vif et joyeux. Et quant à vous, Yves Coudray et Edwige Bourdier, on va vous laisser retourner au théâtre parce que ça commence bientôt.
Et bien sûr, ça commence très vite. On va vite rejoindre nos camarades pour continuer à répéter. Et je vais en profiter, si vous permettez, Benoît, pour citer nos trois pianistes parce qu'elles sont formidables. C'est Nina Ouari, Erika Guillomard et Sophie Telon, parce qu'on a parlé des chanteurs. Nous sommes tous au même niveau dans ce spectacle, vraiment.
Merci à tous. Merci. Vive Offenbach.
Vive Offenbach.
Et on va se quitter avec Jean-Christophe Keck qui dirige l'ouverture de Madame Favart.
Thank you.
Offenbach, l'ouverture de Madame Favart par l'orchestre des Concerts Pas de Loup sous la direction de Jean-Christophe Keck. Jean-Christophe Keck que vous retrouverez d'ailleurs un dimanche par mois à partir du 8 octobre au théâtre de l'Odéon à Marseille à 18h. Il vous présentera justement des opérettes en un acte pas forcément connues de son cher Jacques Offenbach. Mais la grande actualité du jour, vous l'avez compris, c'est à Paris au théâtre de Poche Montparnasse à partir de mardi prochain, 13 septembre et pendant deux mois jusqu'au 6 novembre, les Jeux de l'amour et d'Offenbach, d'Yves Coudray, avec notamment mon invité aujourd'hui Edwige Bourdi, mais beaucoup d'autres chanteurs et pianistes. Ce sera tous les jours à 19h et le dimanche à 17h30, un spectacle à ne pas rater au théâtre de Poche Montparnasse. Et encore donc fin septembre, début octobre, aussi recommandable, le spectacle Un dîner avec Jacques, proposé par l'Opéra Comique à l'auditorium du Musée d'Orsay. Et avant de retrouver notre chroniqueur Serge Elaïc, je vous propose cette année de découvrir chaque semaine aux confins de la musique légère un morceau que j'aime particulièrement dans le registre de la variété, de la pop, de la soul music, où l'on trouve aussi des trésors de séduction comparables à ces magies de l'orchestre que nous propose justement Serge Elaïc. Alors aujourd'hui, à tout seigneur, tout honneur, c'est un de mes points faibles, je l'avoue, on ne l'entend pas souvent sur France Musique, le grand Barry White, le chanteur de charme américain. Vous savez, on l'associe le plus souvent à une image un petit peu vulgaire, très langoureuse, pour ne pas dire hyper sexuelle. Mais la vérité, c'est que Barry White a surtout travaillé toujours avec des arrangeurs extraordinaires. Il y a tout un tissu de cuivre, de cordes, de claviers, de chœurs dans sa musique que je trouve irrésistible, surtout dans les albums de la fin des années 1970, comme celui qu'on va entendre maintenant, The Message is Love, 1979. Alors ça commence par cette voix un peu caricaturale, mais vous écouterez bien l'entrée des chœurs et puis tous ces riffs qui se répondent entre les chœurs, les cuivres, surtout vers la fin du morceau, dans ce développement qui ressemble un peu à de la très belle musique répétitive. C'est magique, c'est Barry White.
I need love. I need life. I need to know that I have someone that I can love. Baby, you're the one, the one I need. Can you make me feel the way I think you can? And girl, can you make me realize how good it is to be a man? Seems so warm. Can you unfold mysteries and thrill me with all your charm? Mistakes I surely made. Give me an answer for each one, so I can make the grade. Girl, can you see? It's love I need. See these things, and if you could, would you tell me? Yeah, yeah, yeah. You're the one, you're the one I need. Girl, girl, you're the one, you're the one I need. You're the one I really need. You're the one, you're the one I need. You're the one I need.
You're the One I Need, cet extrait de The Message Is Love, un magnifique album de Barry White. Vous avez entendu cette orchestration remarquable. Je le soulignais avant, je souligne aussi dans tous ces albums la qualité de la production, du travail du studio, qui est évidemment exemplaire. Je ne serais pas étonné que notre chroniqueur, le roi de la musique d'orchestre, soit également sensible aux beautés de Barry White. Le chroniqueur en question, je nomme Monsieur Serge Elaïc. Bonjour Serge.
Bonjour Benoît.
Et voilà, nous voilà de nouveau ensemble en cette rentrée pour amorcer ou prolonger un grand feuilleton que vous nous proposez autour des orchestres, des arrangeurs. On va continuer une fois par mois parce qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup devant nous encore pour avoir fait le tour de la question. Et aujourd'hui, bah, vous aimez Barry White au fait ?
Ah bah oui, j'ai à peu près, une petite vingtaine, on va dire, de disques de Barry White.
Ah oui, d'accord.
N'exagérons pas, je ne sais pas s'il en a fait 30.
Vous nous parlerez de ses arrangeurs peut-être
tout
un jour.
Fait,
alors aujourd'hui, justement, on va aux États-Unis avec l'orchestre des Boston Pops, que je connais un peu comme tous les amateurs de musique classique, mais voilà. Vous
et
allez
on va
tout
parler
dire.
De son chef Arthur Fiedler. Donc, et c'est donc un des rois de la musique légère. Il fut l'un des rois de la musique légère aux États-Unis. Alors, pendant d'ailleurs près d'un demi-siècle, de 1930 à 1979, eh bien, Fiedler a voué toute sa vie à ce Boston Pops Orchestra, qui est en fait une émanation de l'Orchestre Symphonique de Boston, qui avait été créé à la fin des années du 19e siècle. Alors, c'est à Boston que naît Arthur Fiedler, on peut pas demander mieux, en 1894, et son père Emmanuel, viennois d'origine, est déjà violoniste dans cet Orchestre Symphonique de Boston. Quand en 1910, la famille de Fiedler retourne en Europe, à Vienne d'abord, puis à Berlin, eh bien c'est là que le jeune Arthur va se perfectionner dans la pratique du violon à l'Académie Royale de Musique. Il aura même l'occasion, figurez-vous Benoît, de jouer dans l'orchestre de Johann Strauss III, le fils d'Edouard Strauss.
Ah oui ?
Eh oui. Alors, au début de la Première Guerre mondiale, eh bien Arthur Fiedler retourne aux États-Unis. Il sera engagé comme son père l'avait été, donc violoniste du Symphonique de Boston. C'est vraiment une histoire de fidélité complète à cet orchestre. Mais alors, très jeune, il montre aussi sa volonté de diriger un orchestre. Il sera d'ailleurs nommé chef du Boston Pops Orchestra en 1930. Il n'a que 35 ans.
Une petite merveille, le Boston Pops sous la direction d'Arthur Fiedler, dont vous nous parlez aujourd'hui, Serge Laïc. Alors là, ça c'était Buttons and Bows, un grand classique américain. Et puis tout, au milieu, hein, on a reconnu dans les arrangements géniaux de Leroy Anderson un petit passage de la Grand Canyon Suite. Hein.
De Ferd Groffé, absolument. Voilà,
tout ça est mélangé
très habilement.
C'est un
mixing incroyable.
Et alors donc le Boston Pops, vous nous en parlez aujourd'hui, c'est un de ces orchestres de musique légère américaine, mais qui sont des émanations de grandes formations classiques.
Absolument.
Alors il y a le Hollywood Bowl sur la côte ouest.
Qui fut dirigé par Carmen Dragon à l'époque.
Et donc sur la côte est, c'est
Arthur
Fiedler et son Boston Pops.
Qui donc, on le répète, a été 50 années de suite son chef d'orchestre. Et alors, le premier de ses concerts a eu lieu le 7 mai 1930 au Symphony Hall de Boston. Mais pendant l'été, les concerts se passaient et se passent toujours en plein air.
Avec les mêmes musiciens que ceux du grand
Boston,
orchestre de Boston.
Du symphonique de Boston, absolument. Alors, au répertoire de ces concerts de Fiedler et les suivants d'ailleurs, des chefs suivants, au répertoire se côtoient Strauss, Wagner et des musiques légères. Et alors parmi les principaux arrangeurs d'Arthur Fiedler, l'un des tout premiers fut, on vient de le dire, le célèbre Leroy Anderson. Ça c'était la prononciation PMO. Dès le milieu des années 30, eh bien Leroy Anderson cessait alors à la composition de courtes pièces orchestrales qui sont souvent jouées en bis au concert du Boston Pops, et l'une des toutes premières fut l'horloge syncopée, très célèbre, suivie par le chat valseur, ou encore plus célèbre, la machine à écrire.
La machine à écrire, alors moi je vais faire mon franchouillard, hein, de Leroy Anderson, à la française
en tout cas. Oui, mais c'était PMO qui disait Leroy Anderson.
Il faisait très bien les accents, notre cher PMO.
Tout à fait.
Par Arthur Fiedler et le Boston Pops Orchestra dont nous parle aujourd'hui Serge Laïc.
Alors au début des années 50, eh bien après Leroy Anderson, c'est Richard Eman qui devient l'arrangeur principal du Boston Pops et il fut même aidé en 1968 et même 69 par un certain Joe Boyer, que je sais, pour lequel
j'aime
je
beaucoup,
sais,
oui.
Voilà. Et Joe Boyer était parti pour les États-Unis à ce moment-là. Il avait quitté la France. Joe Boyer, arrangeur français très réputé, puisqu'il avait accompagné des artistes comme Trainé, Maurice Chevalier et beaucoup, beaucoup d'autres. Alors, Joe écrit des arrangements pour le Boston Pops Orchestra, aux côtés de Richard Eman, donc l'arrangeur principal. Et il y a quelques années, j'avais demandé à Joe Boyer, malheureusement disparu aujourd'hui, s'il avait rencontré Arthur Fiedler à cette occasion.
Je l'ai rencontré une seule fois et c'était au cours d'une visite qu'il faisait à Richard Eman. Et ce dernier n'a fait aucun mystère sur le fait que j'étais son collaborateur.
Quel type d'arrangement avez-vous fait pour Arthur Fiedler?
Alors, Arthur Fiedler m'a, après m'avoir chaudement félicité sur mes prestations, qui étaient de tout genre, mais plus particulièrement des œuvres de variété écrites pour l'orchestre seul, n'est-ce pas, c'était le Boston Pops, comme vous savez, ou bien des accompagnements d'interprètes en vogue, comme par exemple Barbara Streisand, et puis d'autres dont je ne me souviens pas les noms, vous savez. C'était des concerts hebdomadaires, n'est-ce pas, télévisés, du Boston Pops Orchestra.
Vous avez un grand souvenir de cette époque avec Richard Eman et
Absolument. Oh, c'était très agréable, au moins, mais compte être joué par le Boston Pops, n'est-ce pas, qui était l'orchestre symphonique de Boston, n'est-ce pas, qui donnait des concerts de variété.
Cabaret par Arthur Fiedler et le Boston Pops Orchestra, un enregistrement de 1968.
Alors, les concerts de ce Boston Pops furent l'occasion pour Arthur Fiedler d'inviter des chanteurs célèbres comme le crooner Tony Bennett, mais aussi des solistes renommés. Il y a eu le trompettiste Dizzy Gillespie, le saxophoniste Stan Getz, et Arthur Fiedler fut particulièrement ému et enthousiaste le jour où le Duke Ellington, ou Duke Ellington,
ah oui,
l'une de ses idoles, vint jouer du piano avec le Boston Pops Orchestra en toute simplicité.
Le grand Duke Ellington avec l'orchestre Boston Pops sous la direction d'Arthur Fiedler, qui devait être drôlement content. Je l'aurais été à sa place,
ben oui.
Serge Laïc.
Alors, centaines de concerts dirigés par Arthur Fiedler, centaines de disques avec ce Boston Pops Orchestra. Eh bien, malheureusement, Arthur Fiedler disparaît à 84 ans en 1979, alors qu'il était encore en pleine activité avec le Boston Pops. Et c'est John Williams, le fameux compositeur des musiques pour La Guerre des Étoiles, E.T. et tellement d'autres films, qui lui succédera jusqu'en 1993. Et jusqu'à aujourd'hui, malgré tout, John Williams continue à diriger quelques concerts chaque année. Mais le chef titulaire est désormais Keith Lockhart. Voilà, merci Benoît et à la prochaine fois.
Merci Serge, à très bientôt. S'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Gaël Braouezek, avec Benoît Latil et Thomas Bizot, réalisation Éric Lancien. La semaine prochaine, un rendez-vous un peu spécial, ce ne sera pas l'émission habituelle, mais un concert en direct, en public, de l'Auditorium de Radio France, dans le cadre de la Journée du Patrimoine. À 11h, je serai bien là, mais c'est moi qui vous présenterai ce concert de David Grimal au violon et Igor Tchetchev au piano.